Chers amis, bonjour. Alors, on continue notre petite topo d'habitude, habituelle. Alors, on a beaucoup insisté sur l'intelligence. L'intelligence par rapport à l'existence de Dieu, l'intelligence par rapport aux religions, l'intelligence par rapport à l'Église, l'intelligence par rapport à la vérité, l'intelligence par rapport au discernement, parole de Dieu, Église. Et l'important maintenant, bon, c'est d'être le plus intelligent possible dans sa foi. Ça, c'est clair. C'est la première des choses. C'est d'être intelligent dans sa foi et être quelqu'un qui, réellement, en cherchant la vérité, puisse la trouver. Et notre intelligence nous a été donnée pour ça. Et l'intelligence est importante parce que l'intelligence nous permet d'aimer plus. Le but du chrétien sur terre, c'est d'aimer. D'aimer Dieu, d'aimer son prochain, de s'aimer soi-même. Et pour aimer beaucoup, il faut aussi, je veux dire, avoir un minimum de connaissances. Et c'est pour ça que l'intelligence est importante, et c'est important de réfléchir sur ce qu'on l'a fait. Moi, je trouve une petite réflexion sur l'intelligence et les différents niveaux qu'on a vus. Alors, vous savez que le but pour moi, quelque part, c'est de faire la distinction Bible-parole de Dieu pour montrer pourquoi nous, les catholiques, nous avons raison d'être catholiques et pourquoi un chrétien intelligent est forcément obligatoirement catholique. Je ne reviens pas dessus. Maintenant, nous allons continuer donc, une fois qu'on a découvert ce qu'est la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu, c'est ce que l'Église nous enseigne, pas premièrement la Bible que je lis. Et donc, nous comprenons donc l'enseignement de l'Église pour nous est très important. Et que c'est important d'écouter tout ce que l'Église dit, tout ce que l'Église vit. C'est important de tenir compte des conciles, des dogmes et de toutes ces choses. Et c'est important de faire comprendre aux gens que croire dans un dogme, c'est éminemment intelligent. Puisque les gens des autres Églises nous prennent pour des idiots, des imbéciles, parce que nous avons des dogmes et nous croyons aux dogmes. On avait vu rapidement que le dogme, pour l'expliquer, tu prends la définition du dictionnaire. Quand tu trouves un mot difficile dans un texte, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu prends un dictionnaire et tu cherches la définition du mot. Et quand tu cherches la définition du mot dans le dictionnaire, tu n'as jamais dit cette définition est fausse. Pourquoi? Parce que tu sais que ceux qui ont fait le dictionnaire sont plus intelligents que toi par rapport à eh bien, la définition des mots. C'est des gens qui ont fait beaucoup d'études en français et qui se réunissent pour vous dire exactement quelle est la définition de ce mot dans cette langue qu'on appelle le français. Eh bien, il y a des gens pareils pour nous dans l'Église. Notamment Luc 22, 32, j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Et la foi de Pierre ne fait pas défaillir, c'est quand même quelque chose d'important. Et ensuite, il y a eu les conciles. Acte 15, 28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Et on voit donc qu'à travers les conciles, à travers le pape, nous avons quand même des gens qui nous disent des choses que Dieu a voulu qu'ils soient quand même de l'Esprit Saint et qu'ils soient infaillibles. Et c'est pour ça que nous devons avoir l'humilité de croire que ces gens, lorsqu'ils se réunissent et qu'il y a un concile, sont quand même plus intelligents que nous. Quand quelqu'un pense qu'un concile est mauvais, il faut se poser des questions sur sa santé mentale. Ça, c'est clair. Je ne peux pas accepter un concile et refuser un autre. Ça, c'est pas très intelligent. Il faut mettre les choses au clair, toujours. Donc, étant capable de bien définir ce qu'est l'Église, ce qu'est la parole de Dieu, il faut maintenant que nous puissions la mettre en pratique dans notre vie. C'est vrai que beaucoup de gens sont intéressés uniquement par la méditation des Saintes Écritures, mais je crois que c'est important d'abord d'avoir un peu de recul et de savoir si dans l'église dans laquelle je suis dans une bonne église ou une mauvaise église. Et maintenant que je suis dans cette église, que je ne me gêne pas et que je puisse, dans cette église, m'engager d'une manière vraie à pouvoir accepter tout ce que l'église veut me donner à travers la parole de Dieu, à travers les sacrements, comme on l'a vu. Alors, il est clair que dès qu'on parle de parole de Dieu en général, pour la plupart des gens, quand même, même si toute la parole de Dieu n'est pas dans la Bible est quand même un livre très très intéressant. Et la Bible, alors bon, la définition de la Bible, c'est une partie, je peux ajouter importante, une partie importante de la parole de Dieu qui a été mise par écrit. Et j'ajoute toujours, cette partie importante de la Bible qui a été mise par écrit, c'est pas toute la Bible, mais c'est important, ne devient parole de Dieu que lorsqu'elle est bien interprétée. Et si la Bible est mal interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. Alors, nous, en tant que chrétiens catholiques, nous savons que c'est l'Église qui nous donne la parole de Dieu, c'est l'Église qui nous donne la bonne compréhension des Saintes Écritures, et grâce à cela, nous devons être capables d'avoir cette parole de Dieu qui dirige notre vie. Alors, je voudrais avec vous, donc, comme je l'ai inscrit sur cette vidéo, méditer le texte de Jean 2. Alors, c'est intéressant parce que c'est un texte qui, quelquefois, fait un peu de polémique, et vous avez beaucoup de pasteurs, alors. Je vais reprendre un texte dans l'épître à Timothée, la première épître à Timothée, chapitre 1, c'est où il est dit, quelques-uns s'en étant détournés, alors je reprends un peu plus haut si vous voulez, c'est 1 Timothée chapitre 1, verset 5, Le but de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Vous avez des gens aujourd'hui hein, qui se prennent pour des prophètes, des docteurs de la loi. Et vraiment, hein, je vous assure, hein, ils ne savent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Quand un homme dit homme de Dieu, je n'aime pas ce mot, dit que les morts sont morts, je vous assure que tu poses des questions sérieuses. Une fois que je nais de nouveau, j'ai la vie éternelle. Comment la vie éternelle peut mourir? Voilà la question qu'il faut leur poser. Et comment ces gens qui prêchent la nouvelle naissance peuvent dire que les morts sont morts? Les morts ne sont pas morts. On est mort à la vie humaine, mais pas à cette nouvelle vie donnée par la nouvelle naissance qui est la vie divine. La vie divine ne meurt pas, c'est pour ça que les morts ne sont pas morts. C'est impossible qu'un le mort meure humainement, mais spirituellement, il ne peut pas mourir. Donc, je ne reviens pas, mais c'est juste pour argumenter un petit peu ce passage. Et maintenant, je viens plutôt donc à Jean chapitre 2. Alors, on va lire hein, simplement Jean 2. On va voir, moi c'est mon côté peut-être un petit peu négatif, mais un petit peu tout ce que les gens en contrepartie disent comme interprétation fausse de ce texte. C'est vraiment curieux. C'est un texte important. Hein. D'abord, si vous voulez, Jean 2, c'est un texte qui se situe, ça veut dire le septième jour. C'est pas moi qui l'ai voulu, hein. Relisez l'évangile de Jean. Et en lisant l'évangile de Jean, vous allez d'abord le prologue. Alors, le prologue, on le connaît tous par cœur, n'est-ce pas? Hein, Jean 1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, etc. Bon. Et à la fin du prologue, on a, voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites. Toi, qui es-tu? Alors, je suis pas le Messie est plus grand que moi, il arrive, tout ça, vous inquiétez pas. Je suis la voix qui crie dans le désert. Je ne suis pas digne de lier ses sandales. Moi, je vous baptise dans l'eau, et lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint, etc. Bon. Alors, vous avez, première rencontre, après le prologue, c'est Jean-Baptiste qui est là et qui reçoit la visite des Juifs. Ensuite, je suis au verset maintenant dans Jean chapitre 1 toujours, le verset 29. Le lendemain, vous avez donc le jour de Jean-Baptiste, c'est le jour 1. Ensuite, le lendemain, le jour 2. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est celui dont j'ai dit, etc. Verset 35, le lendemain, après avoir reçu les Juifs, après avoir dit, moi je ne le connaissais pas, mais je suis venu, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui, etc. Le lendemain, Jean était encore avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples le suivirent. Donc, ce jour 3, jour 1, c'est la visite des Juifs. Jour 2, il désigne Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu, il parle un peu de lui. Jour 3, c'est les disciples qui vont le suivre. Et les disciples de Jean-Baptiste vont suivre Jésus. Ensuite, je suis au verset 43, jour 4. C'est là où va suivre Nathanaël et puis Philippe qui vont commencer eux aussi à suivre Jésus. Et ensuite, je commence avec Jean chapitre 2, 3 jours après. On a donc un jour. Puis le lendemain, le lendemain, le lendemain, et 3 jours plus tard. C'est bien une semaine. Et quelque part, bon, pourquoi est-ce que Saint Jean a permis que ce soit 3 jours après et qu'il précise 3 jours après? C'est quand même intéressant de voir. Je réfléchis avec vous un moment sur ce texte, non? Jean 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Et donc, le troisième jour, il y eut une noce à Cana en Galilée. Alors maintenant, rien que là, on pourrait réfléchir, pourquoi le troisième jour? Le troisième jour, ça nous fait penser à quoi? Forcément, à la résurrection du Christ. Alors continuons, lisons d'abord. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana en Galilée, la mère de Jésus y était. On précise que la mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité à la noce avec ses disciples. Et voilà que le vin de la noce arrive à sa fin. Il n'avait plus de vin. La mère de Jésus lui dit... Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond, « Femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Continue, on est au verset 6. « Il y avait là 6 bacs de pierre que les Juifs gardaient pour leur purification. Ils pouvaient contenir chacun 100 ou 150 litres. » Jésus leur dit, « Remplissez ces bacs avec de l'eau. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Jésus dit alors, prenez maintenant et portez-en au responsable de la fête. Le responsable de la fête goûta cette eau changée en vin, mais il ne savait pas d'où il venait. Seuls les servants qui avaient pris l'eau le savaient. Alors il dit aux mariés, tout le monde sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont gais, on donne le vin ordinaire. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. C'est ainsi que Jésus fit le premier de ses signes à Cana en Galilée. Là, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capharnaüm avec sa mère et ses frères et ses disciples. Il resta que quelques jours. Alors, on lit simplement le texte. Alors, on peut relire comme ça plusieurs fois, deux fois, trois fois, il n'y a pas de souci. Quelquefois avec des traductions différentes, c'est pas mauvais. C'est comme ça qu'on fait une étude biblique. Hein, là, sur ma table, je suis même pas, je suis pas chez moi. Enfin, je suis ma mère, hein, en France, comme vous le savez, je suis pas encore au Cameroun. Mais là, rien que devant moi, j'ai quatre traductions différentes. La Vulgate, traduite en français. J'ai la Bible des peuples. J'ai la Bible Louis II. J'ai la Bible de Jérusalem. Et c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Tu lis dans ces quatre traductions différentes, c'est pas mauvais. Et donc maintenant, ça te permet de pouvoir entrer davantage dans le texte. Et donc, dans ce texte-ci, alors, vous voyez maintenant les conclusions, la conclusion des gens, c'est que Marie et Jésus-Christ ont un problème ensemble. C'est quand même curieux de lire le texte des noces de Cana et d'utiliser ce texte pour montrer que Jésus-Christ et Marie s'entendent mal. Ou disons plutôt que Jésus-Christ dénigre sa mère. Vous entendrez les pasteurs, c'est des gens qui ne savent ni ce qu'ils enseignent, ni ce qu'ils disent. Relisons simplement le texte. Alors dans ce texte, forcément, il y a une phrase qui nous interpelle, qui nous oblige à réfléchir. C'est Jésus lui répond, Femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Mon heure n'est pas encore venue. Je vous prends dans la traduction Louis II. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Ah, c'est vrai, c'est là, c'est écrit, alors on va essayer de réfléchir, bien sûr. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que même si on trouve que cette phrase peut être bizarre lorsqu'un fils s'adresse à sa mère, nous devons d'abord comprendre que eux, en tout cas, ils se sont compris. Si toi, tu ne comprends pas ce qui s'est passé entre Jésus et Marie, sache une chose, c'est que Marie, elle, elle a compris. Et la preuve, elle est très simple. Hein, Jésus lui répond, Femme, vas-tu te mettre dans mes affaires, mon heure n'est pas encore venue. Mais sa mère dit au servant, faites tout ce qu'il vous dira. Donc Marie a compris que Jésus-Christ allait faire le miracle. Donc dans ce dialogue entre Jésus et Marie, il y a un dialogue dans lequel Jésus et Marie se comprennent bien, mais nous on ne comprend pas bien. Alors essayons de demander à l'Esprit Saint qu'il nous éclaire pour essayer de mieux comprendre ce que ça veut dire. Mais il est clair que il y a dans ce passage aucun endroit où on peut dire que Jésus-Christ a rabroué Marie. Et ils insistent pourquoi? Pour dire que qui d'entre nous aujourd'hui va dire à sa mère femme? Bien, c'est vrai que dans le contexte européen, même dans le contexte camerounais, je dirais, eh bien, on ne dit pas femme quand on parle à sa mère. Mais chez les Juifs, c'est une chose qui se fait. Et la preuve, c'est que si ces gens qui lisaient les Écritures avaient une meilleure connaissance des Écritures, ils sauraient que dans les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, eh bien, Jésus-Christ va appeler différentes femmes du mot femme. Alors, la première fois, je vous donne les sept références, hein, vous pourrez les retravailler si vous voulez après. La première référence, c'est celle-ci, c'est Jean chapitre 2, verset 4. Jésus dit, Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Deuxième fois où Jésus-Christ utilisera le mot femme, c'est dans Jean chapitre 4, verset 21. Et Jean 4, c'est la Samaritaine. Et Jésus-Christ va dire à la Samaritaine, Jésus lui dit, Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Il appelle la Samaritaine femme. Ce n'est pas uniquement à Marie. On continue, Jean chapitre 8, femme adultère, verset 10. Alors se redressant, Jésus lui dit, Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. Elle dit, Personne, Seigneur. Alors Jésus dit, Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. Jésus-Christ a appelé la Samaritaine femme, Jésus-Christ a appelé la femme adultère femme. Donc il faut quand même qu'on comprenne que ce n'est pas un truc spécial à Marie pour la rabrouer, ça n'a pas de sens. Continuons. Dans Jean chapitre 19 à la croix, il dit une nouvelle fois Marie, femme. Et forcément, le femme qu'il dit à Marie dans Jean chapitre 2, n'a-t-il pas un lien avec le femme qu'il va dire à la croix? Et comme par hasard, le premier mot femme qu'il dit à Marie, il dit femme à Marie lorsqu'il commence sa vie apostolique. Et il termine avec le mot femme quand il termine à la croix. Il l'appelle femme. Et forcément, si on veut réfléchir un peu, le mot femme à la croix reprend quoi? Ben, reprend la femme qui est Ève. Ève qui est la femme qui a donné la mort à travers le péché originel, et Marie qui est la femme qui donne la vie à travers sa coopération au mystère de la croix. Et la nouvelle femme, c'est Marie qui est au pied de la croix. Et cette nouvelle femme, créature extraordinaire, sublime, qui a réussi à mener une vie chrétienne extraordinaire, est donnée à Jean comme mère. Voici ta mère, pour qu'elle devienne notre mère à nous aussi. Et je crois que c'est logique de pouvoir comprendre toutes ces choses de cette manière-là. Alors, ensuite, les autres fois où il dit femme, c'est dans Jean chapitre 20, verset 15. Hein, Jésus dit, c'est la résurrection, femme, pourquoi pleures-tu? Il s'adresse à Marie-Madeleine. Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je l'enlèverai. Les deux autres références, c'est une dans Luc et une dans Matthieu. Dans Luc chapitre 13, verset 12, la voyant, Jésus l'interpella, lui dit, femme, te voilà délivrée de ton infirmité. Puis il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Et la dernière mot, femme, Matthieu 15, 28. Alors Jésus lui dit, ô femme, grande est ta foi, qu'il t'advienne selon ton désir. Et de ce moment, sa fille fut guérie. Et on voit donc que Jésus-Christ va utiliser sept fois le mot femme. Et quand dans Jean chapitre 2, il dit femme à Marie, il n'y a rien d'insultant, il n'y a rien de méprisant. Ça fait partie de la culture et de la tradition. Et comme par hasard, Marie a le droit à deux fois le mot femme, comme je vous l'ai dit dans Jean chapitre 2 et dans Jean chapitre 19, à la croix où elle va mourir. Et Jésus-Christ dit, femme, voici ton fils. Et c'est la femme par excellence avec qui tout est repris. La première femme, la mère des vivants, c'était Ève. Eh bien, aujourd'hui, la nouvelle femme et la mère des chrétiens, c'est Marie. Et je crois que c'est comme ça qu'on doit comprendre le mot femme utilisé à Marie dans Jean chapitre 19 à la croix. Et justement, Jésus-Christ veut montrer qu'avec Marie, il y a quelque chose de nouveau qui va s'opérer. Et sa vie apostolique, comme sa croix, tout ça va se dérouler avec la présence de Marie. C'est quand même extraordinaire. Alors, femme, il n'y a rien de péjoratif, il n'y a rien de mauvais. Hein. Vas-tu te mettre dans mes affaires? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Alors il faut réfléchir. Mon heure n'est pas encore venue. L'heure, c'est quoi? Et quand on relit dans les Saintes Écritures, l'heure, je crois qu'on va retrouver ça dans Jean chapitre 13. Je vais essayer de voir. Ouais. Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père. Jésus qui avait aimé les siens, qui était dans le monde, les aima jusqu'au bout. Voilà l'heure. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Je vous lis maintenant Jean chapitre 17, la grande prière que le Christ fait juste avant d'être arrêté. Jean chapitre 17, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. C'est la grande prière qu'il fait avant d'entrer dans sa passion. Père, l'heure est venue. Et l'heure, c'est quoi? C'est sa croix. Jésus-Christ dit à Marie, Marie leur dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les noces sont gâtées, les noces sont finies, les noces ne seront pas réussies. Et pour que ces noces soient réussies, ben, il faut qu'il y ait le vin de la fête. Et le vin est là pour apporter cette joie au moment où on célèbre justement des noces. Premier miracle de Jésus-Christ selon l'évangile de Jean, c'est quand même les noces. Jésus-Christ n'est pas allé à un match de foot. Vous allez me dire, il n'y avait pas de ligue à l'époque. C'est vrai, mais il devait y avoir des sports. Il aurait pu aller ailleurs. Il y avait certainement des gargotes ou des dents où on buvait le vin ou autre chose. Il aurait pu aller au bar, il aurait pu aller je ne sais pas où, moi. Les gens forcément se distrayaient, comme depuis toujours. Et Jésus-Christ a voulu, lui, premier miracle, assister à des noces. Alors, c'est intéressant, hein. Le troisième jour, je vous rappelle, le troisième jour, pour nous, ça va faire allusion à la résurrection. Bon, on met ça en filigrane, on met ça loin. Hein. Il y eut une noce à Cana en Galilée. La noce, c'est là où un homme et une femme vont se marier. Parce que Jésus-Christ est venu pour célébrer l'amour. Je vous rappelle que quand tu prends le plan de Jean, dans Jean chapitre 1, c'est le prologue. Le prologue, c'est au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1, 14, le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et on voit comment, dans ce prologue, le Verbe, qui est la deuxième personne de la Trinité, qui est dans le sein du Père, va venir sur terre et va s'incarner. Et dans Jean 1, on voit l'incarnation, la venue du Fils de Dieu qui vient habiter les hommes. Et dans Jean chapitre 2, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il vient pour le mariage. Dans Jean chapitre 3, il va convertir l'intelligence de Nicodème. Dans Jean chapitre 4, il va convertir le cœur de la Samaritaine. Dans Jean chapitre 5, il va guérir le corps de cet homme qui est paralysé. Et dans Jean chapitre 1, il descend sur terre. Pourquoi? Pour les noces. Et les véritables noces, justement, c'est pour ça sans doute qu'on ne donne pas le nom de ceux qui sont mariés ce jour-là. Et pourquoi on ne donne pas le nom? Pour nous faire comprendre que les véritables noces, c'est les noces entre Jésus-Christ et toi. Je vous lis Éphésiens. L'épître aux Éphésiens, qu'on connaît déjà un petit peu, c'est toujours le même passage, Éphésiens 5. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. On a beaucoup utilisé le passage pour montrer que Jésus-Christ a voulu une Église et qu'il est mort pour son Église est celle qu'il a fondée. Donc l'Église catholique, Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Après, il continue. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. C'est pour ça que l'Église, c'est la femme, l'épouse de Jésus. Hein? Comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Alors maintenant, Éphésiens 5, 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Forcément, ça vous fait réagir par rapport à l'Ancien Testament. Et c'est le deuxième récit de la création, chapitre 2, le verset 24. Hein? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et le verset 32, qui est très, très, très joli, faut souligner ça dans vos Bibles, ce mystère est grand, le mystère de l'homme qui quitte son père, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Le grand mystère de l'amour, ce n'est pas l'amour d'un homme pour une femme. Hein. Le grand mystère de l'amour, c'est l'amour de Dieu pour toi. C'est pour ça que moi qui l'ai compris, il y a 40 ans, j'ai accepté de m'engager dans la vie religieuse et de prononcer pauvreté, chasteté, obéissance jusqu'à la mort. Parce que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et Jésus-Christ, c'est normal qu'il vienne célébrer les noces. Il va célébrer les noces d'un homme et d'une femme, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait voulu que l'homme et la femme puissent se marier. Genèse 1, 28, il les bénit, il leur dit, soyez féconds. Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère pour être avec sa femme. Et dans la nouvelle alliance, il y a une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, c'est chacun d'entre nous qui devons aimer Jésus-Christ plus que son mari, plus que sa femme, plus que ses enfants, plus que tout. Et si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose dans notre vie qui ne va pas. Je crois que c'est Matthieu chapitre 10. Je vous lis. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime père, mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime sa fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix, qui ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Jésus-Christ doit avoir la première place dans notre vie. Et même vous qui êtes mariés, c'est normal que vous puissiez aimer votre mari ou votre femme, mais vous devez aimer Jésus-Christ plus que votre mari ou plus que votre femme. Mais pour moi, c'est tout ça qui est présent dans les noces de Cana dans Jean 2. Hein. Tout ça est présent. Jésus-Christ est venu célébrer des noces parce que Jésus-Christ veut qu'on puisse s'aimer. Mais il veut nous faire comprendre aussi que le plus grand de tous les amours qui soit, ce n'est pas l'amour pour un homme, c'est l'amour pour Dieu. C'est pour ça qu'il y a un passage, je ne sais plus si c'est Matthieu chapitre 22. Hein? J'espère que c'est ça. Jésus lui dit, le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et nous devons aimer Dieu plus que tout. Alors, pas au détriment de notre mari, de nos enfants. Non, il faut aimer tes enfants, il faut aimer ton mari, il faut aimer ta femme, il faut vous aimer, c'est important. Mais en sachant que la personne que nous aimons le plus, c'est d'abord notre père ou notre mère. C'est pour ça d'ailleurs que normalement, il n'y a pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Et tant que tu n'as pas pris la bénédiction de Dieu, normalement, il n'y a pas de vie commune à vivre avec un homme ou une femme. Parce que Dieu passe avant l'homme et Dieu passe avant la femme. Et vous, les femmes, vous ne changez pas d'église à cause de votre mari parce que Dieu est plus important que ton mari. Tout ça, c'est important. Donc, dans les noces de Cana, on voit bien donc toutes ces choses. Hein. Le troisième jour, il y eut une noce à Cana en Galilée. Troisième jour, c'est pour nous, je vous dis, ça fait penser vraiment à la résurrection. Et les grandes noces, c'est quoi? C'est les noces avec Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Parce qu'il est plus fort que la mort. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et Jésus-Christ nous montre, nous avons raison de l'aimer, de lui faire confiance, parce qu'il est ressuscité le troisième jour. Là maintenant, c'est le troisième jour. Il y eut une noce à Cana en Galilée. Le troisième jour, on vient célébrer l'amour. Et la mère de Jésus y était. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire que nous aussi, dans notre relation amoureuse avec Jésus-Christ, pour nous, Marie était là pour les noces, pour aider cet homme et cette femme à se marier, c'est clair. On a l'impression que c'est même quelqu'un qui fait partie de la famille et qui va aider, puisqu'elle s'aperçoit même qu'il y a du vin qui manque. Quand tu es invité à un banquet, toi tu vas pas à la cuisine voir s'il manque du vin. Donc Marie devait être un peu au service quelque part, et devait être amie et aider ces gens-là dans leur mariage. Hein? Et Marie, on voit bien qu'elle a une place centrale. Alors maintenant on ajoute, Jésus aussi fut invité à la noce. Alors on se demande même si Jésus-Christ n'est pas invité à cause de Marie. Ce qui est aussi très joli, hein. Mais vous voyez, quand on lit les Saintes Écritures, bon maintenant je vais partir faire un tour dans Luc. Dans Luc. Je vous lis à partir du verset 39, Luc 1, 39. Après l'Annonciation, c'est la Visitation. La Visitation, Luc 1, 39. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes, dans une ville de Juda. Après l'Annonciation, elle va aller voir sa cousine Élisabeth. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. C'est que ça est quand même magnifique. On a l'impression qu'aux noces, Marie est présente, donc on a invité son fils avec ses disciples. Marie va voir sa cousine Élisabeth, et quand Marie va rendre visite à sa cousine Élisabeth, elle apporte qui avec elle? L'Esprit Saint. Mais nous avons raison d'avoir une dévotion mariale. Refuser une dévotion mariale pour ceux qui lisent régulièrement les Saintes Écritures, moi j'avoue que je ne comprends pas. Marie, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est l'Esprit Saint est venu sur Marie. L'ange est venu la voir. Elle lui dit, ta cousine est enceinte. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Marie décide d'aller rencontrer sa cousine. Et quand elle rencontre sa cousine, dès que la salutation de Marie a été donnée, l'Esprit Saint est venu. Moi, j'y peux rien. C'est biblique. Et Marie est allée aux noces et Jésus-Christ était là. Moi, je ne fais que lire la Bible, hein, essayer d'interpréter. Jésus aussi fut invité à la noce avec ses disciples. Et voilà que le vin de la noce arrive à sa fin. Il n'avait plus de vin. Donc, le bonheur et la joie, la bonne ambiance, l'amour entre les gens qui sont là, qui est célébré, avec un peu de vin, parce qu'un peu de vin, ça fait pas de mal. Je vais vous lire peut-être un passage tiré du livre de l'Ecclésiastique. Et le livre de l'Ecclésiastique, qu'on appelle encore Ben Sirac le Sage, qu'on appelle encore Siracide. Et c'est un livre qui est deutérocanonique. Ça veut dire qu'il est inspiré par Dieu, mais qu'il a été jeté par Martin Luther. Et donc tous ceux qui maintenant sont les petits frères de Martin Luther ont jeté ce livre inspiré par Dieu à la poubelle. Ils l'appellent apocryphe, alors qu'il n'est pas apocryphe, comme on l'a vu. Juste une petite précision, parce que c'est toujours bon de préciser les choses et de ne pas avoir peur de dire la vérité. Alors, je crois que c'est au chapitre 31. Voilà. Avec le vin, je suis dans Siracide, donc chapitre 31, verset 25. Avec le vin, ne joue pas au fort, car le vin en a perdu beaucoup. Alors, on n'interdit pas le vin, hein. Le vin n'a jamais interdit. Là, c'est pareil, oui. Tous ces pasteurs et ces prophètes qui vous disent que Dieu a interdit le vin, ce sont moi j'appelle ça des mboutoukous. Ce sont des pasteurs qui savent même pas ce qu'ils enseignent. Ils vous enseignent des bêtises. Il faut qu'ils aillent à l'école. Parce que dire que le vin de noces de Cana, c'est sans alcool, ça montre bien la perversité de l'intelligence de ces gens-là. Il y a une perversion quelque part. Parce qu'il y a aucun. La Bible est contre l'excès d'alcool. Ça, c'est clair. Mais la Bible n'est pas contre l'alcool. Il y a 1 Timothée 5, 23, que tout le monde connaît. 1 Timothée 5, 23, où Paul dit à Timothée, cesse de boire uniquement de l'eau et prends un peu de vin à cause de tes fréquents maux d'estomac. Cesse de boire uniquement de l'eau et prends un peu de vin à cause de tes fréquents maux d'estomac. Alors, ce n'est pas parce que le vin soigne l'estomac que ça veut dire qu'il est permis uniquement dans le cas où il se... Non, le vin n'a jamais été... Paul ne peut pas demander à Timothée de pécher un peu parce qu'il a mal à l'estomac. Ça montre bien que le vin n'est pas un péché. Ce qui est un péché, c'est l'abus de vin. La preuve, c'est que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait à la fin du repas? À la fin du repas, il prit du pain. Et à la fin du repas encore, qu'est-ce qu'il fait après avoir pris du pain? Il prend du vin. Il a pris du vin. Moi, j'y peux rien. Alors, je vous lis maintenant Siracide 31, 25. Avec le vin, ne joue pas au fort, car le vin en a perdu beaucoup. T'amuse pas. Et si tu sais que tu as des difficultés avec le vin, ben, bois modérément. Et si c'est plus fort que toi, ben, ne bois pas du tout, si le vin te dérange. La fournaise éprouve la trempe de l'acier, le vin met à l'épreuve les cœurs, poussant à la dispute les orgueilleux. Le vin pour un homme, c'est la vie, quand tu le bois avec mesure. C'est quand même très joli comme texte. Le vin pour un homme, c'est la vie, tant que tu le bois avec mesure. Qu'est-ce qu'une vie où manque le vin? Il a été créé pour la joie des humains. Et le vin va apporter la joie aux hommes. Et la vraie joie, c'est qui l'apporte? C'est Jésus-Christ crucifié. Et comme Jésus-Christ crucifié, c'est la vraie joie apportée aux hommes, qu'est-ce que Jésus-Christ dit à sa mère? Jésus lui répond, femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Quelles affaires? Il est venu pour nous sauver. Et ensuite il dit, femme, vas-tu te mettre dans mes affaires? Mon heure n'est pas encore venue. Quelle heure? L'heure de la croix. Ils n'ont plus de vin, la vraie joie, mais c'est moi qui vais leur donner quand je vais mourir sur la croix. Ne précipite pas le moment de ma mort. Ça va venir, mais ce n'est pas encore là. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre ce texte. Et ce texte, c'est pour comprendre que le véritable vin pour nous, ce sera le vin de, bon, j'ai envie de dire le vin de la croix, si vous voulez, le sang de Jésus-Christ qui sera donné. Et c'est peut-être pour ça qu'au repas, il a pris du vin pour transformer en son sang. Pour nous montrer justement qu'il y a un lien entre cette surabondance de joie, d'amour que Dieu veut nous donner à travers sa mort sur la croix et qui fait qu'on sera plus heureux que uniquement le mariage d'un homme avec une femme, puisque les véritables noces, c'est les noces entre Jésus-Christ et nous. Alors, vous voyez, on a essayé de partager un petit peu, il est 11h03, donc je vais arrêter l'émission, mais c'est intéressant, vous voyez, de pouvoir essayer d'entrer dans un texte simplement. Et d'essayer de d'avoir un texte et de le respecter le mieux possible pour essayer de l'étudier simplement. Alors, c'est vrai que moi j'ai une chance, c'est que je connais quand même assez bien les Saintes Écritures, donc je peux naviguer d'un côté à l'autre, partir à droite, partir à gauche. Et c'est vrai que c'est très enrichissant et c'est magnifique. Alors, continuez, vous voyez. Moi j'ai pris l'exemple des noces de Cana, on pourrait prendre un autre, hein, habituellement pour ceux qui écoutent et qui connaissent bien le Père Ave Marie. Quand je parle de méditation des Saintes Écritures, je prends toujours Genèse chapitre 22, Abraham qui va immoler Isaac, mais c'est aussi très beau. Tous les passages des Saintes Écritures sont beaux. Et il faudrait qu'on accepte de les méditer comme ça les uns après les autres. Et je pense que dans les années à venir, c'est ce que je ferai de plus en plus. Je prendrai un texte, je vais m'atteler dessus, puis j'essaie de voir ce qu'on peut en sortir. Alors, je vous souhaite à tous une bonne journée et que Dieu nous garde.